Radio Okapi.
La grande édition de nos informations dominicales vespérales, c'est avec vous, Noëlla Luzitu Kabambi.
Les épreuves hors session de l'examen d'État 2023 auront lieu sur l'ensemble de la province du Sud-Kivu, malgré la catastrophe qui a frappé le territoire de Calais, faisant plus de 200 morts et près de 300 disparus, parmi eux des enseignants, des directeurs d'école, des élèves et des agents de l'EPST Calais. Ces assurances sont du directeur de la province éducationnelle, Simon Zono Ingalea. Affrontement ce dimanche à Kindu, au Maniema, entre des jeunes et des militaires commandos. Selon plusieurs sources dans la ville, ces échauffourées auraient fait des morts et causé des dégâts matériels importants. Le président de la société civile lit la situation à la demande du gouverneur intérimaire aux jeunes des groupes dits d'autodéfense de se faire identifier. Le maire de la ville lui parle des insurgés qui ont affronté les forces de l'ordre. Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale, affirmation de l'OMS depuis vendredi. Mais dans la vie quotidienne, cela change quoi? La vaccination contre Covid-19 est-elle toujours nécessaire? Docteur Michel Mouvoudi va répondre tout à l'heure à ces questions. Il est l'invité de ce journal. Bonsoir à tous. Au Sud Kivu, les épreuves hors série ou hors session de l'examen d'État 2023 auront bel et bien lieu sur l'ensemble de la province. Plus de 80 000 finalistes sont attendus pour les trois provinces éducationnelles du Sud Kivu. Cependant, les autorités scolaires du Sud Kivu déplorent la mort d'une dizaine d'enseignants, directeurs d'école et élèves, ainsi que d'autres agents de l'EPST Calais. Emmanuel Elamejo Akabedi.
La seule province éducationnelle du Sud Kivu 1 attend recevoir plus de 44 000 élèves finalistes pour les épreuves de dissertation de ce lundi 8 mai 2023. Pendant ces temps, la catastrophe de Calais a sérieusement affecté la sous-division de Calais 1. Cette calamité naturelle a emporté complètement les bâtiments scolaires des écoles primaires Louvungi 3, Epe Bouaïre et de l'Institut Chirembera. Outre ces dégâts matériels, l'EPST enregistre la mort de trois enseignants de l'EPE Nguliro et leur directeur, trois enseignants de l'EPE Mukowa, un enseignant de l'Institut Kanyuni, son épouse et leurs trois enfants, deux agents de la DINACOP, Antenne de Nyabibwe, ainsi que le directeur de l'EPE Rubaiza. À cela s'ajoutent aussi deux élèves finalistes de l'Institut Chirembera. Le centre d'examen d'État affecté est devenu inaccessible et vite délocalisé, selon le prophète Simon Zono Ingalea. Le prophète Zono dit sa gratitude au gouverneur de province et au docteur Denis Mukwege et qui ont vite dépêché des équipes de médecins en faveur des victimes, dont les enseignants, les élèves et autres personnels de l'EPST de Calais. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Plus de 200 victimes de ces inondations de Calais ont été inhumées hier samedi à Bouchouchou et Nyamukubi et les recherches se sont poursuivies ce dimanche pour retrouver d'autres corps ou des éventuels survivants. Une première assistance constituée des médicaments, bâches et vivres du gouvernement provincial du Sud Kivu est arrivée sur place le même samedi pour tenter de soulager les rescapés de cette catastrophe de Calais. Une aide qui reste insuffisante au vu du nombre des victimes. L'administrateur de Calais continue à appeler le gouvernement central et d'autres humanitaires à intervenir car la situation est, dit-il, très déplorable. Maître Archimède Carébois, administrateur assistant de Calais, et j'en parle Emmanuel Elamejo Akabedi.
Nous avons entamé les enterrements si les corps qui ont été retrouvés, parce que les corps qui sont encore en disparition sont les plus nombreux que les corps que nous avons enterrés. Nous avons enterré ce samedi plus de 200 corps. Il y a des cas qui sont encore à l'hôpital et des cas graves. Nous avons également reçu dans la soirée la première assistance du gouvernement provincial tel qu'elle avait promis le gouverneur lors de son passage ici ce vendredi. Nous avons reçu un bateau qui était composé de certains médicaments. Nous avons également reçu quelques vivres et non vivres en bâche pour nous permettre d'avoir des habitations moins provisoires des familles qui sont restées sans abri. Ce dimanche, nous sommes en train d'acheminer les vivres au lieu du drame. Cette assistance reste insignifiante. Ça ne peut pas contenir tout ce que nous sommes censés couvrir. Donc, il est vraiment impérieux d'appeler le gouvernement central d'agir le plus vite que possible, appeler les humanitaires. Et comme il s'appelle humanitaire, il est temps d'humaniser avec cette population face à la situation ici à Calais.
Situation sécuritaire préoccupante ce dimanche dans la ville de Kindu, Maniema. Des coups de feu ont été entendus durant toute la nuit. Selon nos sources, il y a eu affrontement entre des jeunes et les militaires commandos. Ces échauffourées ont causé mort d'hommes, des dégâts matériels considérables dans le bureau de l'UDPS complètement saccagé, plusieurs blessés et des arrestations ont été aussi enregistrées. Selon le président de la société civile, cette situation est consécutive au moratoire que le gouverneur intérimaire avait donné aux jeunes dits des groupes d'autodéfense de se faire identifier. Cependant, le maire de la ville lui parle sans plus de détails des insurgés qui ont affronté les forces de l'ordre. Florence Kizalunga.
La ville de Kindu a ressemblé à un champ de bataille à cause de plusieurs coups de balles qui ont sifflé la nuit de samedi à ce dimanche 7 mai. Le président de la société civile parlait déjà de 3 morts. Maître Stéphane Kamundala.
La société civile, force civile du Maniema, condamne avec la dernière énergie la tuerie intentionnelle réfléchie par ceux qui ont les armes des 3 paisibles populations dans un milieu où il n'y a pas de front. Curieusement, parce qu'il y a des petits débordements ça et là, mais on a utilisé les armes. Nous condamnons aussi et déplorons le fait pour les jeunes d'aller eux-mêmes agir en saccageant et en incendiant le bureau du siège de l'UDPS de la province du Maniema.
Le maire lui parle jusque-là d'un mort. Augustin Moulamba.
Il y a eu affrontement entre les insurgés dans la nuit de samedi au matin de dimanche. Et maintenant là, on a enregistré un décès du côté des assaillants, des dégâts matériels importants, un colonel de la police qui a été grièvement blessé, le bureau de l'UDPS est saccagé, le ministre de l'EPST attaqué. Même ma résidence a été attaquée, les parsecs du gouverneur aussi attaqués, et vous allez vous-même comprendre que c'était quelque chose de bien préparé qui a été exécuté en ce jour.
Jusqu'à présent, la circulation reste très timide. Le maire confirme que les enquêtes sont en cours. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
De son côté, le député national Rachidi Bukanga Rubin se dit choqué et révolté par ces actes qui ont coûté la vie à des paisibles citoyens. Pour l'élu de Kindu, cette situation confirme la non-gouvernance de la province, car le Maniema totalise déjà 2 ans sans un gouverneur élu. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
C'est inadmissible dans une démocratie qu'une marche des jeunes qui n'ont pas d'armes puisse être réprimée à 100. C'est effectivement à cause de ce phénomène de vol à main armée qui a pris de l'ampleur, mais aussi avec les viols qui se passent en plein centre-ville de Kindu et que les autorités sécuritaires ne sont pas en mesure de gérer la situation. C'est comme ça que les jeunes s'étaient organisés pour passer des nuits blanches en train de veiller, surveiller leur quartier avec des sifflets, des torches, et que un d'eux a été abattu hier par quelqu'un qui pourrait l'uniforme des FRDC. Et donc aujourd'hui, les jeunes voulaient manifester pour dire non à ce tuerie de plus, parce que vous êtes sans ignorer que c'est pratiquement chaque jour qu'on est en train de tuer des gens à Kindu maintenant. Et curieusement, une situation qu'on devrait vraiment gérer, mais bon, malheureusement, le gouvernement provincial n'est pas en mesure. Et d'ailleurs, c'est les liens de le dire que nous n'avons pas de gouvernement provincial à Kindu. Ça fait 2 ans que nous avons un gouvernement provincial intérimaire et la province est totalement foutue dans tout le secteur. Est-ce que le président de la République est au courant? Et si oui, mais pourquoi il n'agit pas? Ça fait 2 ans quand même que nous sommes en train de patauger au niveau du Maniema. Rien ne va.
Quant au sénateur Augustin Matata-Pogno, originaire du Maniema, il dit condamner fermement la protection insuffisante des paisibles citoyens par le pouvoir en place. Dans un communiqué publié ce dimanche, il dénonce avec fermeté des tirs à balles réels qui ont coûté la vie à plusieurs jeunes non armés, innocents, qui ne faisaient que dénoncer l'insécurité qui règne depuis un certain moment dans la ville de Kindu et dans les différents territoires de la province. Le sénateur Augustin Matata-Pogno présente ses condoléances aux familles éprouvées et à toute la population du Maniema. Province de la Tchopo, la gouverneure de province se dit préoccupée par des tueries entre les communautés Mbole et Lengola dans la commune urbano-rurale de Lubunga, Kisangani. Dans un message adressé à la population hier soir à la RTNC Kisangani, Madeleine Nikomba Sabangu apaise les esprits et affirme également son engagement et sa détermination à mettre fin à cette barbarie qui a endeuillé la province. Tout en compatissant avec les familles des victimes, elle rassure que les auteurs de ces atrocités subiront la rigueur de la loi. On écoute un extrait de ce message lu par son porte-parole, le docteur Mathéus Kanga Londimo, extrait choisi par Jacques Moukonkole.
Pour une fois, nous venons de vivre la culture d'atrocité faisant usage d'armes à feu et autres armes blanches dans la ville de Kisangani par des individus sans foi ni loi, sous couvert de l'appartenance à une telle ou telle autre communauté. Pour toutes ces vies humaines innocemment fauchées, la gouverneure de province compatit avec les familles des victimes, tout en leur assurant qu'aucun de ces criminels ne restera impuni. Reconnaissons que ce scénario macabre n'est pas de la culture tchopolaise et que tout porte à croire à l'injection d'un venin importé des autres cieux pour déstabiliser la province de la Tchopo et ses institutions. La gouverneure des provinces, au travers de son gouvernement, en intelligence avec l'organe délibérant, avait enclenché une série d'actions diplomatiques allant de la réception de chacune des communautés en conflit jusqu'au déploiement des équipes sur terrain pour la réconciliation et le retour à la cohabitation pacifique. En professionnel, les forces de sécurité ont réussi à imposer une accalmie bien que précaire et ont mis la main sur quelques meneurs de troubles qui vont répondre de leurs actes ignobles devant la justice, et cela en attendant le démantèlement de tous les réseaux impliqués. La gouverneure de province rassure ses compatriotes qu'à ce jour, tout est mis en marche pour que pareille atrocité ne se répète plus jamais.
Restons dans la province de la Tchopo. La nomination par ordonnance présidentielle de Bernard Kalombola au poste de président du conseil d'administration du Fonds spécial de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda RDC. Cette nomination est très mal accueillie dans les milieux des organisations de défense des droits humains, notamment au sein du groupe Lotus. Dans un point de presse organisé vendredi à Kisangani, le président de cette organisation, Dismas Kitenge, trouve que la présence dans ce comité de Bernard Kalombola entraîne du coup un déficit de crédibilité et de légitimité. Mais que reproche-t-on au nouveau président du conseil d'administration du Fonds spécial de l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda RDC, Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, est au micro de Jacques Mukonkole.
Le monsieur, quand il était président de l'association des victimes de guerre, en 2016, avril 2016, il avait détourné plus de 12 000 $, puisque la MONUSCO, avec le projet d'impact rapide, il avait donné 16 960 $ à cette association qu'il présidait, et lui, il a détourné 12 000. Et il y a eu une plainte, il a été poursuivi, il a été incarcéré à la prison, et à ce moment-là, il avait reconnu le fait, et il avait remboursé à peu près 1 000 quelques, et le 10 000 quelques, il n'a jamais remboursé. Et à ce moment-là, nous avions dénoncé, et la MONUSCO a tous les éléments, toutes les preuves, et les victimes l'avaient aussi récusé. Les victimes l'ont exclu de leur association, et les victimes l'ont mis aussi en accusation. Il était gardé là. Alors, c'est à ce moment-là que nous avons aussi considéré, deuxièmement, qu'il était une fausse victime. C'est-à-dire, il n'a jamais été victime des guerres de 2000, même à partir de 99, jusqu'à l'heure actuelle. Et que son cas date de 1998, et dans une autre circonstance où il a eu le bal dans la zone d'Opala. Comment nous avons dénoncé? Malheureusement, certaines victimes qu'il a instrumentalisées, et ce que nous lui reprochons aussi, c'est l'instrumentalisation des victimes.
Tous nos efforts pour joindre Bernard Kalombola sont restés vains. Affaire question orale avec débat adressée à la gouverneure du Tanganyika. Trois membres du bureau de l'Assemblée provinciale s'opposent à cette initiative. Dans une correspondance adressée au président de cet organe délibérant, le vice-président, le rapporteur et le questeur dénoncent des irrégularités dans cette question orale et la violation du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. On écoute le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika qui est l'un des signataires de cette correspondance. Jean Pignembo est au micro de Paul Amon.
Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Sur le plan de forme, l'article 162 de notre règlement intérieur a été violé parce qu'il dispose que l'auteur d'un moyen de contrôle dépose ce moyen de contrôle au bureau et non pas chez quelqu'un. Le règlement intérieur parle du bureau. Et le bureau s'est réuni pour examiner la recevabilité ou la non-recevabilité de ce moyen de contrôle. Or, pour les cas sous-examen, le bureau ne s'est jamais réuni. Imaginez-vous, nous en tant que membres du bureau, avons été surpris de voir un accusé de réception de la lettre sur les réseaux sociaux, chose que nous considérons comme un mépris pour nous membres du bureau, et plus encore une violation grave de cette disposition de notre règlement intérieur. Et si je m'attaque sur le plan du fond, l'article 163 de notre règlement à son alinéa 3, il a été aussi violé dans le sens que le gouverneur ne peut répondre que sur des questions politiques générales du gouvernement de la province. Tandis qu'ici, dans cette question orale avec débat de notre collègue, vous remarquerez avec moi sur toutes les questions posées, je pense 90% de questions ne concernent que les finances, alors que nous avons un ministre provincial de finances. Voilà pourquoi nous nous inscrivons en faux de toutes les démarches tendant à déstabiliser la province.
Rappelons que la plénière à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, consacrée à la question orale adressée à la gouverneure de province, est prévue demain lundi 8 mai. Mise au point ce dimanche du gouvernement provincial du Kasaï oriental, après les motivations avancées par l'inspection générale des finances IGF autour du blocage de deux comptes bancaires non déclarés par l'autorité provinciale. L'attaché de presse et porte-parole du gouverneur de province du Kasaï oriental a indiqué que le compte bancaire intitulé « Solidarité Kasaï » a été ouvert dans le cadre de l'assistance et du développement de la province, tandis que le compte bancaire Agipel a été créé en 2022 avec l'accord de l'équipe de l'IGF en mission au Kasaï oriental dans le but d'appuyer la réserve stratégique débutée au mois d'août 2022. Selon André Rosier et Kasonga Zongola, la province a été surprise par des insinuations dommageables de l'IGF alors que le travail est en cours. André Rosier et Kasonga Zongola, attaché de presse et porte-parole du gouverneur, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Les inspecteurs des finances par correspondance adressés au ministre provincial de l'Agriculture demandent au ministre de leur soumettre la programmation des dépenses sur le fonds logé au compte Agripel. En date du 17 avril, le ministre provincial en charge de l'Agriculture a répondu à la dite lettre en indiquant le caractère contraignant du calendrier agricole et l'urgence des dépenses à effectuer en tant que gestionnaire. En date du 3 mai 2023, l'équipe de mission adresse une correspondance au ministre provincial en charge de l'agriculture, lui demandant de fournir les pièces justificatives des dépenses opérées sur le fonds logé dans le compte Agripel, tenu dans les livres de la BGFIBank. Un délai de 7 jours lui a été donné pour ce faire. La province est étonnée des insinuations dommageables alors que le travail est en cours. Le 200 millions de francs congolais évoqués ont été transférés de la Banque centrale du Congo vers la BGFIBank dans le compte Agripel avec l'accord de la présente équipe de mission de l'IGF selon les libellés.
L'invité.
L'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré le vendredi dernier que le COVID-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale. Qu'est-ce que cela veut dire? Le respect des gestes barrières est-il toujours important? La vaccination est-elle toujours nécessaire pour se protéger contre le COVID-19? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons comme invité Dr Michel Mouvoudi, expert en santé publique. Il s'entretient avec Alain Irong.
Dr Michel Mouvoudi, bonjour. Vendredi, l'OMS a déclaré que le COVID-19 ne représente plus une urgence sanitaire mondiale. En termes simples, qu'est-ce que ça veut dire?
Bonjour, cher Alain Irung. Par rapport à la question, il faut souligner que lorsque l'OMS déclare que la COVID-19 n'est plus une urgence de santé mondiale, cela veut dire tout simplement que il n'existe plus de risque avéré pour la santé publique dans d'autres États par rapport à cette maladie et donc le risque international de sa propagation est très bas. Donc ça c'est une très bonne chose et donc à ce titre-là, ça ne demande plus d'avoir une coordination internationale pour pouvoir limiter sa propagation. Voilà en des termes simples ce qu'il faut comprendre par cette déclaration de l'OMS.
Même si le COVID-19 n'est plus une urgence sanitaire mondiale, continue-t-on à enregistrer des nouvelles vagues? Si oui, ou on en est à la quantième à ce jour, comment se manifeste-t-elle?
Alors sous la question des vagues, sans être très précis dans les chiffrages, je sais que très récemment, on a commencé à constater qu'il y a des zones de santé qui ont commencé à notifier des cas de COVID-19. Mais il faut avouer que quand vous regardez en hospitalisation, nous n'avons pas de cas. Nous n'avons pas de cas de COVID-19, ce qui montre justement que nous ne sommes plus encore dans une phase grave de la maladie, mais on continue à surveiller la maladie. Les signes sont les mêmes, hein, donc ce sont les signes principalement respiratoires, caractérisés par la toux, les douleurs à la gorge, n'est-ce pas, par la fièvre, les céphalées intenses, donc les mêmes signes que nous connaissons depuis longtemps, qui sont un peu apparentés aux signes de la grippe. Donc encore une fois de plus, nous sommes vraiment dans une situation d'un syndrome grippal, et c'est ce qu'on voit. Mais maintenant, encore une fois de plus, quand vous avez ce genre de signes, il faut toujours aller se faire soigner, ça veut dire consulter le centre de santé le plus proche. On peut faire justement aussi un test diagnostique pour s'assurer que c'est la COVID ou pas. Et maintenant, on sait que les formes sont tellement simples que juste avec un traitement symptomatique, les gens arrivent à s'en sortir. Voilà un peu ce que je peux vous dire à propos de la question du tableau clinique.
Les gestes barrières exigés pendant la flambée du Covid-19 sont-ils toujours d'actualité aujourd'hui?
En ce qui concerne l'application des mesures barrières, depuis très longtemps, comme vous le savez, en RDC, ces mesures étaient allégées. Ces mesures étaient allégées du fait de la déplétion du nombre de cas de Covid-19, ce qui fait qu'on est revenu un peu à une vie normale, n'est-ce pas, sans distanciation physique, sans port du masque, ainsi de suite. Mais il faut quand même avouer que dans une situation où nous avons d'autres maladies qui peuvent se transmettre par la même voie que la Covid-19, notamment aussi d'autres maladies des mains sales, il faut quand même continuer à promouvoir le lavage de mains. Ça reste très important, mais aussi avec cette déclaration de l'OMS, encore une fois de plus, il y a des raisons à alléger davantage et à continuer à alléger l'application des mesures barrières. Mais cela n'est plus d'actualité dans notre pays, comme vous l'avez si bien remarqué, depuis qu'on avait lancé la vaccination.
Pour terminer, la vaccination est-elle toujours obligatoire pour se protéger contre le Covid-19?
En ce qui concerne la vaccination, donc je pense d'abord que vous savez que nous en RDC, la vaccination n'était plus obligatoire, au moins pour toute la population. Elle était obligatoire pour des voyageurs et dans des circonstances assez particulières. Mais encore une fois de plus, on encourage les personnes à se faire vacciner parce que, comme vous le savez, la vaccination provient contre les formes graves de la Covid-19, même si vous pouvez l'avoir, mais vous n'allez pas développer des formes graves. Et je suis heureux de voir qu'en RDC, depuis qu'on a lancé la vaccination, nous avons dépassé la barre de 10 millions de personnes vaccinées. Donc c'est une très bonne chose, mais encore une fois, c'est une exhortation parce que la vaccination permet la prévention. On ne sait jamais s'il y aurait d'autres crises un jour, mais la vérité c'est que si nous nous vaccinons aujourd'hui, nous diminuons justement ce risque de développer les formes graves de la Covid-19.
Docteur Michel Mouvoudi, merci.